Nous lisons dans Jean 8. Jean chapitre 8. À partir du verset 39, c'est un entretien entre Jésus et les Juifs. Ils lui répondirent, donc les Juifs répondirent à Jésus, « Notre père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous êtes enfants d'Abraham, faites les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi un homme qui vous a dit la vérité. » Que j'ai entendu de Dieu, cela Abraham ne l'a pas fait. Vous faites les œuvres de votre père. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne s'est pas tenu dans la vérité parce que la vérité n'est pas en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, ses paroles viennent de lui-même car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as en toi un démon? Jésus répondit, « Je n'ai pas de démon, mais j'honore mon Père et vous me déshonorez. Moi, je ne cherche pas ma gloire. Il en est un qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » Maintenant, lui dirent les Juifs, « Nous savons que tu as en toi un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi, et toi tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne goûtera jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham, qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? » Jésus répondit, « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui dont vous dites, il est notre Dieu. Et vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais. Si je disais que je ne le connais pas, je serai semblable à vous, un menteur, mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli d'allégresse à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi, je suis. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les lui jeter, mais Jésus se cacha et sortit du temple. Voilà une scène exceptionnelle dans la vie de Jésus-Christ où Jésus s'exprime expliquant des choses célestes et on le traite de quelqu'un de possédé. On dit qu'il a un démon et l'échange est dur. L'échange est violent, l'échange est choquant entre Jésus et les gens qui sont autour de lui. Mais est-ce que c'est Jésus qui est violent ou qui veut être choquant? Non. Jésus dit quelque chose qu'il répète à plusieurs reprises. Il dit, mais moi je ne vous dis que la vérité. Si je ne disais pas ce que je dis, ça voudrait dire que je devenais menteur. Moi je vous dis que je viens d'en haut. Je vous dis que Dieu est mon Père. Je vous dis tout ça, mais parce que c'est vrai. Et quand ça allait de l'autre côté, le retour c'était quoi? La violence. tu es un démon, tu es un menteur, tu es fou. Et nous voyons la fin, c'est les pierres. Je voudrais partager sur la violence de l'évangile. L'évangile est violent, mais ce n'est pas une violence humaine, mais c'est une violence de la différence. Jésus s'exprime en disant que lui, il vient du ciel. Il vient, quand vous lisez tout le chapitre 8, il dit, lui, il vient d'en haut, ce qu'il a entendu de son Père, c'est ce qu'il est en train de dire. Jésus est le Fils de Dieu, il vient d'en haut. Jésus n'est pas que homme, mais c'est Dieu qui s'est fait homme. Il vient d'en haut et il nous apporte les choses d'en haut. Et il nous prévient, et le Seigneur nous prévient dans Ésaïe 55, que ses pensées ne sont pas nos pensées. Donc forcément, Jésus apportant les choses du ciel, elles vont rencontrer des obstacles sur la terre parce que les pensées de l'homme ne sont pas les pensées de Dieu. Si aujourd'hui, notre évangile se confondait avec juste la bonté des restaurants du cœur, ce n'est pas le vrai évangile. Parce que les restaurants du cœur ne choquent pas. Les restaurants du cœur n'apportent pas la violence. Mais Jésus, nous venons de lire l'entretien qu'il a eu avec ces gens, a produit la violence, a produit le choc. Il y a un choc, les gens sont choqués, ils ne comprennent pas ce que Jésus dit. Mais Jésus donne la raison. Il dit, pourquoi vous êtes choqués? C'est parce que vous n'êtes pas de Dieu. C'est normal. Moi, je dis des choses qui viennent de Dieu. Pour que vous les entendiez, il vous faut être de Dieu. Mais quelqu'un dira, mais comment les gens seront-ils de Dieu alors qu'il faut d'abord qu'ils entendent l'évangile? Oui, le Seigneur, dans sa complexité, dans sa puissance, a fait déjà un travail dans chacun d'entre nous. Avant même que la parole nous soit annoncée, le Seigneur, par les circonstances, par la création, par la nature, par bien d'autres choses, a fait un travail qui nous a secoués et qui, à un moment donné, quand la parole vient, la parole va trouver un terrain favorable ou non. Nous lisons dans Matthieu 13, on nous parle de plusieurs terrains. Ces terrains-là, il y a un travail qui a été déjà fait par l'Esprit du Seigneur. Et Jésus nous le rappelle en disant, personne ne peut venir à lui sans que le Père ne l'attire. Il y a un travail que le Père fait sur tout humain sur terre. De sorte que quand la parole de Dieu vient maintenant en elle-même, en personne, elle trouve un terrain favorable ou non. Et de ces gens-là, malgré la préparation qu'ils ont reçue à travers Jean-Baptiste, ils n'ont pas changé. Et le Seigneur le dit encore dans Luc 7, au verset 30, il dit que les pharisiens ont arrêté le plan de Dieu sur leur vie parce qu'ils n'ont pas voulu se faire baptiser par Jean-Baptiste. Donc ils n'ont pas été préparés. C'est pourquoi quand Jésus est venu leur parler, ils n'ont pas accepté parce qu'ils n'avaient pas été préparés. Ils n'avaient pas accepté la préparation de Jean-Baptiste. Et c'est ce qui se passe dans bien de l'humain. Dieu nous prépare à recevoir sa parole. Et il peut nous préparer le même jour aussi. Il peut, pendant que quelqu'un parle, quelqu'un dit sa parole, tu y es préparé instantanément et c'est pendant la réponse dépend de toi. À travers la préparation du Seigneur, quelle sera ta réponse? Et nous nous rendons compte que là, Jésus lui parlait tout doucement, tout simplement, mais ça suscite la violence. Bien, vous savez d'où vient cette prédication? C'est que je lisais les rapports d'un organisme qui s'occupe des chrétiens persécutés dans le monde entier. On disait qu'un homme en Iran, un pasteur, je ne sais pas si c'est un pasteur, mais en tout cas serviteur de Dieu, il a contesté le fait qu'on enseignait aux enfants chrétiens le Coran en Iran. Bien-aimés, mais imaginez le contexte de l'Iran aujourd'hui. Qui es-tu pour aller contester quelque chose comme ça? Alors que l'Iran est maîtrisé par les islamistes. L'Iran est en guerre contre tout ce qui est chrétien. Cet homme-là, c'est en Iran, il n'est pas en France, il est en Iran. Il ose aller dire aux autorités, vous n'avez pas le droit d'enseigner le Coran aux enfants chrétiens. bien-aimé, on l'a mis dans une prison de haute sécurité. Donc, il est considéré comme un danger pour le pays. Donc, c'est quelqu'un, aujourd'hui, on parle, il est maltraité en prison, frappé, torturé. Alors, je me suis dit, mais qu'est-ce qui lui a pris? La réponse, bien-aimé, c'est que c'est l'appel de Dieu qui lui a pris. C'est le feu de Dieu qui l'a pris. Je me suis dit, mais alors pourquoi? Nous, on est tranquille ici? La réponse est qu'on n'est pas tranquille. Il y a aussi la violence ici. Mais c'est un choix. Cet homme avait le choix de dire, ce qui m'a le plus choqué parce que j'ai des enfants, c'est que cet homme a des enfants et une femme. Donc en allant dire, contester contre les autorités par rapport à... Il savait qu'il allait être emprisonné, il savait qu'il allait être torturé et qu'il est même sous une... Il peut être condamné à mort. Il le sait. Mais pourquoi il le fait? C'est que la vie qu'il a du ciel est plus importante que les choses de la terre. Il s'est dit, bon, ou Jésus vit en moi, ou ma vie n'a plus de sens. Pourquoi je suis chrétien? Je sens en moi qu'il faut que j'aille dire, je veux parler. Je me suis dit, mais c'est choquant ça. C'est déstabilisant. Quelqu'un qui va laisser maintenant ses enfants, sa famille. Et il pouvait dire maintenant, bon, on va prier, jeûner, intercéder. Dieu va toucher les autorités. D'ailleurs, c'est écrit en 1 Timothée 2. Avant toute chose, il faut prier pour ceux qui nous dirigent. Bon. Restons calmes, cachons-nous seulement. Mais non, il a répondu à l'appel du Saint-Esprit pour aller dire aux autorités, non, c'est injuste ce que vous faites. J'ai compris une chose. Nous vivons la violence ici, mais nous refusons cette violence. Nous refusons le choc parce que nous voulons préserver notre paix personnelle. On veut être en sécurité dans sa famille. On veut être en sécurité à l'école, en sécurité au travail. On ne veut pas répondre à l'appel de Dieu, mais on veut être bien avec tout le monde, avec le monde. Et c'est ce qui fait que beaucoup d'entre nous ne vivent pas ce choc parce qu'ils ont décidé d'être tranquilles. Ils ont décidé d'être en paix d'une manière charnelle. Je ne dis pas que Dieu nous envoie provoquer les gens, mais il y a une réalité. Lorsque nous agirons pour Dieu, ça créera un choc. Ça sera comme violent sur les autres. Ils ont fini par quoi? Verset 59. Là-dessus, il prit des pierres pour les lui jeter. Bien-aimé, vous êtes en train de discuter comment vous en arrivez à prendre des pierres. C'est que pour ces gens-là, cette discussion-là devenait comme un poignard qui les blessait. La vérité devient quelque chose qui blesse. Et quelque chose qui blesse. Toi, tu dis la vérité. Jésus dit, à répéter, quand vous lisez tout ce qu'on a lu, il y a au minimum 5 fois, Jésus parle du mot vérité, 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 vérité. Et cette vérité-là, face au mensonge qui est de l'autre côté, ça crée comme une blessure. Et ils sont obligés de répondre comme ils n'ont pas de parole. Le mensonge n'a pas de puissance vis-à-vis de la vérité. On va utiliser les pierres pour voilà, étouffer la vérité. On va utiliser la violence. La violence, c'est comment les gens reçoivent notre évangile. C'est eux qui la reçoivent comme un choc qui les pousse à vouloir se défendre en utilisant la violence. L'évangile est violent parce qu'il suscite la violence. Vous savez, bien-aimé, si vous venez de passer un temps dans la mécanique, nettoyant votre moteur, changeant les filtres, et puis qu'on vous dise, bon, vous avez fini, mettez une chemise blanche, on va aller quelque part. Quand on va approcher la chemise de vous, vous allez vous-même fuir. Pourquoi ? Parce que la chemise est blanche, vous êtes sale. La saleté et la propreté, ça ne va pas ensemble. Vous allez fuir. Dès qu'on vous approche, le costume qui vient du pressing, dès qu'on vous l'approche, vous vous enfuyez. Non, non. Pourquoi? Parce qu'il y a la saleté. Le costume qui est blanc devient comme un ennemi. Tu le repousses. C'est ça, bien-aimé. Imaginez que vous, maintenant, vous êtes habillé en costume. On vous dise de plonger vos mains dans le moteur. Vous allez dire non. Vous allez repousser. Vous allez dire non. Vous allez vous retirer. Vous allez dire non, ce n'est pas pour moi. Il faut que j'enlève d'abord mon costume. C'est le même choc qu'il y a entre la vérité et la fausseté dans l'homme. L'homme a le mal en lui. Dès que la vérité de Dieu s'approche, il y a un choc. Maintenant, ce choc-là peut conduire, pour ceux qui sont humbles, au changement. Ils vont dire, aïe, je me rends compte que je suis sale. Seigneur, sauve-moi. Mais pour d'autres, ça va conduire à une réponse violente, une réponse de colère, d'animosité, de haine. Et c'est ce deuxième cas qui est majoritaire. C'est ça la réalité. L'évangile est violent. Mon exhortation, bien-aimée, c'est que Dieu nous a suscités, nous tous, pour être des instruments pour lui. Mais beaucoup d'entre nous ont été verrouillés, ont été bloqués parce qu'ils ont peur de la violence que suscite l'évangile. Tu as osé dire quelque chose, il y a eu une telle réaction violente que tu as préféré écouter les prédicateurs qui disent « Soyez sages, ne faites rien, Dieu lui-même va faire. » Tu as écouté les prédicateurs qui disent « Non, c'est bon l'œcuménisme, il ne faut pas choquer les gens. Il faut, il faut se mêler aux autres. Jésus était avec les païens, mais Jésus était avec les païens pour les sauver, pas pour faire comme eux. » Et donc nous, on a peur de maintenant vivre la vie chrétienne pleinement parce qu'on a peur de la violence que ça suscite. Et ça, ce n'est pas bon. Nous devons être réalistes. L'évangile est violent parce que l'évangile apporte quelque chose du ciel. Et les choses du ciel ne vont pas ensemble avec les choses de la terre. Donc il y aura un conflit. C'est une réalité. Ce n'est pas quelque chose qu'on vivra tous les jours, mais ça va arriver. Ça va arriver. Il y aura un jour où le conflit va éclater. Et à un moment donné, le Seigneur a dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais je suis venu apporter l'épée. Dans une famille, deux vont aller à gauche, trois vont aller à droite, parce que l'évangile est violent. Ça crée comme c'est comme un coup qu'on frappe à quelqu'un qui est dans le faux. Quand on parle de l'évangile, quand on vit l'évangile, c'est comme si on faisait du mal à l'autre. Mais c'est faux. On lui fait du bien, on lui montre son péché. C'est une question après d'humilité, bien-aimé. Nous, quand on était païens, mon oncle était pasteur, quand il arrivait à la maison, ben, on était mécontents parce qu'on se disait, bon, donc on va être surveillé, on va être contrôlé. Alors que lui, il ne va pas vous contrôler. Mais c'est vous-même qui vous sentez observé, qui vous sentez sale. Et il devient comme un ennemi. Et ma mère s'armait déjà de la volonté de boire la bière malgré sa présence. Donc, Jean-Pierre, il vient, mais moi, je vais boire ma bière tranquillement. Bon, pourquoi tu t'agites alors que lui ne t'a rien dit? Donc, les gens s'agitaient avant qu'ils ne viennent. Parce qu'on avait des problèmes. Et ça crée comme un conflit. Alors que l'évangile n'est pas venu pour créer le conflit, mais il créera le conflit. Parce que l'homme, quand il ne veut pas recevoir ce qui est de Dieu, ça crée le conflit. Le monsieur qui va dire, je ne veux pas qu'on enseigne à mes enfants le Coran. Est-ce que lui, il a tapé quelqu'un? Non. Il a tenu une position. C'est tout. Et les autres répondent par la violence. Ça veut dire quoi? Ce que l'évangile dit est en train de les blesser. L'évangile est en train de leur reprocher quelque chose. Bien-aimé, comme j'ai l'habitude de dire, si on me dit qu'il y a un éléphant ici dans la salle, ben ça ne va rien me faire. Je vais prouver qu'il n'y a pas d'éléphant. En traversant toute la salle, je montrerai qu'il n'y a pas d'éléphant. Mais pourquoi les gens se fâchent quand ils entendent l'évangile? Pourquoi les gens se mettent en colère? Pourquoi jusqu'à ramasser les pierres? Parce qu'ils ont un problème. Ils se reprochent quelque chose. Ils sont mal à l'aise. Si tu es sûr que ce qu'on dit, c'est de vanité, c'est rien du tout, mais laisse passer. Mais pourquoi s'armer de colère? Parce que tu es touché. Il y a un problème. Nous devons nous habituer à la violence de l'Évangile. C'est une réalité. Lisons Actes des Apôtres au chapitre 5. À partir du verset 27. Après les avoir amenés, ils les firent comparaître devant le Sanhédrin. Le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. Nous vous avions formellement défendu d'enseigner en ce nom-là, et voici que vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et que vous voudriez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pierre répondit, ainsi que les apôtres, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. En les entendant, ils étaient exaspérés et auraient voulu les faire mourir. Bien-aimés, vous vous imaginez quelle réaction? Il est écrit « en les entendant ». On n'a pas dit qu'ils ont reçu des coups. Non. En les entendant, ils étaient exaspérés et voulaient les faire mourir. Oh, quelqu'un qui t'a rien fait, qui a juste dit que Jésus est ressuscité. Pourquoi toi tu veux le tuer? C'est que Jésus soit ressuscité, c'est un problème pour toi. Tu sens le jugement sur toi. C'est ça la réalité. Mais quand on sent comme ça, il faut s'humilier et dire, Seigneur, je suis perdu. Sauve-moi. Maintenant, il y a des têtus. Et ces têtus-là vont user de violence. Mais nous, chrétiens, quel est l'appel de Dieu? Acceptons cette violence-là. C'est l'Évangile qui est comme ça. Nous continuons. Mais un pharisien du nom de Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et donna l'ordre de faire sortir ces hommes un instant. Puis il leur dit, « Vous, Israélites, prenez garde à ce que vous avez l'intention de faire à l'égard de ces hommes. Car il n'y a pas longtemps que se leva Théodas, qui se disait quelqu'un, et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué et tous ceux qui lui obéissaient furent mis en déroute, et il n'en resta rien. Après lui se leva Judas le Galiléen, à l'époque du recensement, et il entraîna du monde à sa suite. » Il périt aussi, et tous ceux qui lui obéissaient furent dispersés. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas les détruire. Prenez garde de peur de vous trouver en guerre contre Dieu. Ils se rangèrent à son avis, puis ils appelèrent les apôtres, les firent battre de verges, leur défendirent de parler au nom de Jésus et les relâchèrent. Ceux-ci se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom du Seigneur. Et chaque jour, au temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle du Christ Jésus. Amen. Joyeux d'avoir été jugés dignes. Donc ça, pour eux, c'était un honneur d'avoir été fouetté pour le nom du Seigneur. Dignes de souffrir pour leur maître, pour leur Dieu. Ils considéraient ça comme un honneur. Aujourd'hui, les chrétiens, l'opposition et la persécution est considérée comme quelque chose de négatif. Nous devons nous réveiller. Pourquoi on te persécute? Pourquoi on use de violence contre toi? Si c'est pour la vérité, réjouis-toi. Que ce soit un honneur de souffrir pour la vérité. À quoi ça sert de souffrir pour le mal qu'on fait? Souffrons pour la vérité, ça c'est un honneur. Bien-aimés, malgré les conseils de Gamaliel, ils ont quand même frappé. On ne comprend pas comment quelqu'un qui vous prêche quelque chose, vous, vous le frappez. Vous n'avez qu'à fermer, plutôt à tourner vos talons et partir. Non, on frappe parce que l'évangile choque. Le vrai évangile blesse. Pourquoi Judas a trahi Jésus? À cause de l'évangile. Il s'est dit, bon, à un moment donné, on va devenir quand même des riches. On a vu, vous savez, les sacrificateurs. Quand j'ai fait un tour en Israël, on nous a montré la maison d'un sacrificateur de l'époque, bien-aimé. C'était des riches, des gens qui avaient les plus belles maisons dans la ville. Et Judas s'était dit, à un moment, nous aussi, on va, ça sera notre tour. L'argent coulera. Mais le vrai évangile, ce n'est pas l'argent. Le vrai évangile, c'est la paix et la joie. L'humilité, c'est l'espérance du ciel en Jésus. C'est ça le vrai évangile. Et à un certain moment, Judas dit, non, cet homme-là est anormal. Il est anormal. Tout le monde le suit. Il pourrait gagner beaucoup d'argent. Il pourrait devenir le roi. Vraiment, il me déçoit. Avec toute la puissance qu'il a, on est en train de traîner comme ça. C'est la colère. L'évangile lui a donné la colère. Il s'est dit, c'est pas normal. Moi, ce que je veux, c'est de l'argent. Et comme lui, il ne saisit pas, moi, je vais le vendre. C'est ça la réalité. Le vrai évangile donne la colère. Parce que l'évangile, c'est la paix, la joie, la simplicité, l'amour. C'est le ciel. C'est aime ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Et ça, l'homme n'en veut pas. L'homme veut de l'argent. L'homme veut de la puissance. L'homme veut être reconnu. Et le vrai évangile va le perturber. Mais pour ceux qui sont humbles, le vrai évangile va les choquer pour les amener au salut. Mais pour ceux qui sont orgueilleux, ça va les perturber, ça va susciter la violence. Et nous devons être préparés à cela parce que Dieu nous appelle à sauver l'humanité. Préparons-nous à la violence liée à l'évangile. Dieu nous appelle à soutenir la vérité. Jean 8 nous parle de la vérité. D'ailleurs, il y a un verset célèbre, le 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Et Jésus nous parle, dans Jean 8, il parle du mot « vérité, 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 vérité. » Et on voit la suite, on prend des pierres pour lui jeter dessus. C'est ça, là, c'est que le résultat de la vérité dans ce monde. Et nous devons y être préparés. Le Seigneur a dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Haïs de tous. Aujourd'hui, statistiquement, il est prouvé que c'est les chrétiens qui sont la population la plus persécutée au monde. C'est les chrétiens. Haïs de tous. Que ce soit dans les pays arabes, que ce soit en Israël, que ce soit dans les pays européens, c'est les chrétiens qui sont les plus persécutés. C'est ça la réalité. Mais on ne s'en rend pas compte parce qu'autrefois, le christianisme semblait être la religion dominante. Mais en réalité, ce n'est pas le cas parce que ce n'était pas le christianisme, c'était le catholicisme qui n'est pas le christianisme. Le catholicisme, c'est un mouvement des humains pour contrôler le monde. Et c'est ce mouvement-là qui était majoritaire, ce n'était pas le christianisme. Parce que le christianisme était combattu par le catholicisme. Les catholiques ont tué beaucoup de chrétiens en France, en Espagne et partout. Tel que quand tu avais la Bible, on te tuait, tu avais des problèmes. Il ne faut pas faire l'amalgame entre le christianisme et le catholicisme. Le vrai christianisme a été toujours persécuté dès le commencement jusqu'à aujourd'hui. C'est ça la réalité. Et le Seigneur veut que nous soyons préparés. Nous serons persécutés, c'est normal, parce que nous allons dire que le divorce, ce n'est pas bon. C'est normal qu'on soit persécuté. Lorsqu'on va dire que le concubinage, ce n'est pas bon, c'est normal que les gens se fâchent. Lorsqu'on va dire que l'homosexualité, c'est un péché, on aura des problèmes, puisque le monde aime ça. Lorsqu'on va dire que tricher, frauder, ce n'est pas bon. On aura des problèmes. Puisque les gens trichent, fraudent, et tous les jours, c'est devenu leur vie. Et lorsqu'on va présenter l'amour de Dieu, on aura des problèmes aussi. Parce que les gens veulent mériter. Toi, tu viens leur dire que quelqu'un peut te sauver gratuitement. Lui, il n'est pas content. Lui, il veut mériter son salut. Il veut faire des choses pour mériter. Des honneurs, mériter une élévation. Toi, tu viens lui dire, non, non, Jésus a tout fait pour toi. Il suffit que tu crois. Il suffit que tu t'humilies et tu es sauvé. J'en dis, mais ce n'est pas possible. Là, ça fera de nous tous des gens au même niveau. Mais oui. Or, les gens ne veulent pas être tous au même niveau. On se souvient de quelqu'un, d'une dame qui a été visitée par des chrétiens. Et cette dame-là avait des statues, des anges gardiens à côté d'elle, des choses comme ça, pour la protéger à l'hôpital. Mais le chrétien lui dit, mais les anges-là, tout ça, c'est des chemins contournés. Est-ce que vous reconnaissez que Jésus est Dieu? Elle dit, ben oui. Mais pourquoi vous ne priez pas Jésus lui-même directement? Elle a dit, Jésus c'est pour tout le monde. Moi, mon ange gardien, c'est pour moi, bien-aimé. Donc les gens ne veulent pas Jésus qui va aimer tout le monde. Il veut son ange gardien. Mais l'ange gardien, ben, elle connaît même pas le nom de son ange gardien. Tu ne le connais pas, mais tu connais Jésus. Clairement, le Fils de Dieu qui est venu, qui est mort pour toi à la croix. Et l'ange gardien, tu le connais pas. Si on te demande le nom de ton ange gardien, est-ce que tu connais? Tu ne connais pas. Donc c'est faux tout cela. La vérité, c'est le Fils de Dieu, c'est Jésus. Et l'évangile va déranger les gens. Parce que l'évangile apporte un amour gratuit. L'évangile parfois dérange même les chrétiens. Combien de chrétiens n'ont pas-ils des difficultés à croire au pardon du Seigneur? Ils se disent non. Le Seigneur ne peut pas me pardonner après tous les péchés que j'ai commis. Oui, mais le Seigneur peut pardonner. 1 Jean 1, 9 nous le dit. Le sang de Christ nous purifie de tout péché. Le sang de Christ peut effacer les péchés. Et beaucoup de chrétiens veulent vivre par leur puissance à eux. Et quand ça ne marche pas, ils sont en colère. Ils se disent, mais où est la puissance que Dieu m'avait promise? Mais Dieu ne t'avait pas promis seulement la puissance. Il t'a promis que le sang de Christ peut te purifier à chaque fois de tout péché. Au lieu de te culpabiliser et de rester sur place, laisse Jésus te purifier et continue ta marche. C'est comme ça que ça fonctionne. Nous ne marchons pas selon la vue, mais selon la foi. Ne cherche pas à te sentir fort pour marcher. Repose-toi dans les bras du Seigneur. Et cette petitesse-là, nous n'en voulons pas. 1 Corinthiens 1 le dit, 26 à 27, regardez au milieu de vous, il n'y a pas beaucoup de sages selon ce monde. Il n'y a pas beaucoup d'hommes forts selon ce monde. Parce que Dieu a choisi les choses faibles. Voilà le système de Dieu. Et ce système-là ne plaît pas, même à certains chrétiens qui veulent qu'on ait un système comme le bouddhisme, où il y a des niveaux, des niveaux, des niveaux, des niveaux. Comme ça, quand tu atteins le haut niveau, tu es plus grand que les autres. Non. Avec Dieu, nous sommes tous égaux parce que nous sommes sauvés de la même manière, par grâce, par les moyens de la foi. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et beaucoup, ça les gêne, cette simplicité-là. Ils veulent des choses qui élèvent l'homme. L'évangile va déranger. Soyons prêts à cela. Jésus a dit clairement, votre père, c'est le diable. Aujourd'hui, les gens vont dire, oh, c'est choquant, mais c'est la vérité. On n'est pas là pour dire des phrases choquantes, mais on est là pour dire la vérité. Mais il y a des moments où cette vérité est choquante. Mais elle sauve. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Celui qui refuse la vérité va mourir. Proverbe 28, 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Celui qui ne veut pas de la vérité restera. Comme il est écrit dans, je crois toujours dans Jean 8, c'est toujours ce fameux Jean 8, c'est écrit, si vous ne vous convertissez pas, vous mourrez dans vos péchés. Laissons la vérité nous choquer, mais pour nous purifier et nous donner le salut. Ne refusons pas ce choc-là. Et toi, chrétien, tu es appelé à vivre l'évangile et à en parler. Laisse Dieu t'utiliser. Je ne dis pas que nous, on cherche à choquer les gens. Laissons Dieu nous utiliser librement. Et quand il veut choquer à travers nous, laissons-le choquer. Parce que c'est comme ça qu'il sauve les gens. Il ne choque pas pour choquer. C'est son évangile qui choque parce que son évangile est contraire à la nature humaine. C'est ça la vérité. Mais quand on accepte de s'humilier, cet évangile nous transforme. Nous brillons. Vous vous souvenez du voleur à la croix? Il a accepté de s'humilier. L'autre s'est dit, mais tiens, mais ce Jésus-là, il se prétend fils de Dieu, il se retrouve à la croix comme nous. Il n'a qu'à se sauver, à nous sauver. Voilà les gens mal intentionnés, les gens qui sont mauvais. Ils ne pensent qu'à eux. C'est-à-dire qu'en pensant en soi-même, on ne peut pas réellement recevoir Dieu. On reçoit Dieu quand on s'humilie. Quand on reconnaît que soi-même, on est perdu. Et on a beaucoup de raisons pour le reconnaître. Il n'y a qu'à attendre, vous savez, fais 3 jours sans te laver, c'est là que tu te rendras compte que tu es perdu. Tu te rendras compte que ton corps est impur. On a beaucoup de raisons de savoir qu'on est perdu. Fais 2 jours sans manger, tu vas te rendre compte que ton corps n'est rien du tout. Qu'on dise qu'il y a des terroristes à l'extérieur là-bas, on va voir la réaction des gens ici. Ah oui? C'est là qu'on va se rendre compte que l'homme n'est rien. Combien de fois on n'a pas vu à la télé ces derniers temps des hommes politiques de haut niveau tomber, avoir des malaises? Berlusconi, malaise devant tout le monde, car il tombe. Après, il va crier, mais oui, mais on t'a vu tomber. Donc, on n'est rien du tout. On a beaucoup de raisons de réaliser qu'on n'est rien du tout. Il y en a qui sont à l'école. Tu n'as pas eu 2 sur 20, 3 sur 20. Tu n'es rien du tout. Il y a des jours où tu es venu, il y a un nouveau cours. Pendant 2 heures du temps, tu n'as rien compris. Donc, tu n'es rien du tout. Parce qu'il y a des gens qui comprennent, toi, tu n'as pas compris. Donc, on a beaucoup de raisons pour reconnaître qu'on a perdu. Comme le voleur à la croix. On a beaucoup de raisons. Tu es là. Tu as un rêve. Tu aurais voulu peut-être avoir une maison, une voiture téléguidée, quelque chose, mais que tu n'as pas. On est des perdus, des perdants. Et Dieu veut nous purifier et faire de nous des triomphateurs, des vainqueurs. Alors quand la lumière de l'évangile vient, elle nous montre qu'on est un perdu. Ne faisons pas les têtus. Humilions-nous et laissons Dieu nous transformer. C'est ce que Dieu veut faire. Dieu ne veut pas nous faire du mal. Il veut nous sauver. Mais sa vérité, quand elle vient, le fait qu'elle soit contraire à notre nature, c'est comme si elle nous choquait. Mais c'est un bon choc. Et nous, chrétiens, nous ne devons pas retenir notre bouche, retenir notre comportement, parce qu'on ne veut pas choquer. Ce n'est pas à nous de décider cela. Laissons Dieu se servir de nous. S'il doit choquer, si ça vient de lui, bien sûr, parce qu'il y en a qui vont vouloir faire des trucs pour choquer les gens, c'est pas bon. Donc il faut laisser Dieu nous utiliser tel que lui il veut. Si tu dois chanter en public, chante, si ça vient du Saint-Esprit. Si tu dois parler, parle, si ça vient de Dieu. Si tu dois refuser quelque chose aussi, refuse, parce que c'est Dieu qui te conduit à cela. Ne retiens pas ta vie chrétienne sous prétexte que ça va choquer. Parce que tu empêches les gens d'être sauvés, car seule la vérité sauve. C'est ça la réalité. Le deuxième voleur s'est humilié. Il a dit, Jésus, il a dit à l'autre voleur, tais-toi. Nous sommes des perdus. Nous avons été condamnés parce que nous avons commis des crimes. Voilà ce que nous devons annoncer à tout homme. Tu es quelqu'un qui est perdu. Regarde comment tu vieillis. Le fait que tu vieillisses, ça montre que tu es perdu, tu vas vers la mort. il a reconnu. Les gens, au lieu de regarder à eux-mêmes, ils passent leur temps à chercher des failles chez Dieu. Et c'est ainsi qu'ils s'enferment dans leur chute, dans leur mort. Mais quand on regarde à soi-même, on se dit, oh, comme ce voleur-là, j'ai perdu. J'avais bien voulu avoir telle chose, je ne l'ai pas. J'aurais bien voulu que ma mère soit vivante, elle ne l'est pas. J'aurais bien voulu que mon frère soit vivant, il ne l'est pas. Donc, je ne peux pas maîtriser les choses sur la terre. Donc, j'ai perdu. Seul Dieu est mon recours. Dieu seul peut protéger. Dieu seul peut arranger. Et Dieu nous a promis qu'au ciel, il n'y aura plus de deuil, plus de séparation, plus de crise, plus de maladie. Apocalypse 21:4, il nous a préparé cela. Alors, je préfère m'orienter vers cela. Et ce voleur-là s'est dit, je suis perdu. Et il a dit à l'autre voleur, tu y es perdu. Parce qu'on a le péché en nous. Nous avons commis des crimes. Mais celui-là, il n'a rien fait. Donc au lieu de le critiquer parce qu'il se retrouve à la croix, réfléchissons sur la raison qui l'a amené à la croix. Au lieu de critiquer Dieu, parce que tu te dis, il y a des guerres, comme les hommes disent. Il y a des guerres. Il y a des gens qui sont malades, violés. Où est Dieu? Au lieu de critiquer pour ce que tu as observé, réfléchis plutôt sur ce que tu observes. Et la plus grande réflexion, c'est sur Jésus à la croix. Pourquoi Jésus à la croix? Parce que tu critiques, tu dis qu'il y a la souffrance dans le monde. Mais le Fils de Dieu, pourquoi lui aussi l'a souffert? Réfléchis. Alors que lui n'a pas fait de péché. Mais pourquoi lui aussi souffre? C'est d'être notre prédication. Tu secoues ton voisin, quel que soit l'endroit où tu es, tu lui dis pourquoi Jésus-Christ est mort à la croix? Pourquoi le Fils de Dieu est venu souffrir comme ça? C'est parce qu'il a voulu te sauver, toi et moi. Le voleur à la croix, il s'est dit, cet homme n'a rien fait. Pourquoi est-il mort à la croix? Pourquoi il se retrouve à la croix? Il doit y avoir une raison. Dans son humilité, Dieu lui révèle la raison. Dieu lui montre qui est Jésus. Et il s'exprime en criant, il dit, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Dans ton règne. Il a tout compris en une seconde. Tout compris. Vous voyez comment Dieu peut travailler dans quelqu'un qui s'humilie. Dans quelqu'un qui reconnaît sa petitesse. Très vite. Alors il ne faut pas résister à Dieu. Nous vivons un temps bien-aimé où les gens deviennent de plus en plus orgueilleux. De plus en plus orgueilleux. Parce que l'homme a trop de moyens techniques pour arriver à résoudre ses problèmes. Et parfois, il a une impression, ce n'est pas la réalité, il a l'impression que la médecine peut résoudre tous ses problèmes. Il a l'impression que l'État peut résoudre tous ses problèmes. Nous qui avons conduit la voiture pendant ces derniers épisodes de tempête de neige, nous avons vu la carence de l'État, l'insuffisance de la protection d'une voiture, tu t'en rends compte devant le déchaînement des éléments. Tu te rends compte de la petitesse de l'homme. Et ça te pousse à craindre Dieu. Les hommes deviennent de plus en plus orgueilleux. Vous savez, autrefois, les gens dépendaient de la pluie pour boire de l'eau. Quand la pluie tombait, ils faisaient des réserves dans des citernes. Et quand la pluie ne tombait plus, ils utilisaient ses réserves. Donc ils étaient pressés que la pluie revienne. Donc c'est des gens qui craignaient, qui respectaient la création. En respectant la création, ils respectaient forcément Dieu. Aujourd'hui, les gens veulent gérer la création. Ils ne respectent pas la création. Ils disent, c'est nous le papa de la création. C'est nous les écolos. C'est à nous de protéger la création. Nous sommes le papa. Alors qu'autrefois, les autres se trouvaient inférieurs. J'ai besoin de la pluie pour boire. Aujourd'hui, l'homme se dit, je dois gérer la pluie. parce qu'il a beaucoup de moyens technologiques. Je me souviens l'année passée, j'étais dans les Côtes d'Armor et dans un camping, les enfants se baignaient à l'eau tous les jours. L'eau était gaspillée tous les jours. Et quand j'ai quitté le Côte d'Armor, j'arrive en Normandie. Je suis les infos. On me signale aux infos que dans le Côte d'Armor, c'est la sécheresse. Je dis, mais moi, j'étais là-bas, je n'ai pas vu la sécheresse. L'eau coulait à flot dans les piscines. Il n'y avait aucun souci d'eau là-bas. Et vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, donc, l'homme pense que parce que la sécheresse, le manque d'eau, le manque de pluie n'influence pas sa vie. Il croit avoir maîtrisé les choses. Mais les derniers événements nous ont montré le contraire. Que tout un État n'est pas arrivé à maîtriser la neige. On a vu l'éruption volcanique en Islande. C'est que commence à paralyser tout un continent. On se rend compte que l'homme est petit. Mais le problème, c'est que l'homme devient de plus en plus orgueilleux parce qu'il croit avoir les moyens. Et Dieu lui parle à travers les catastrophes naturelles pour qu'il se réveille. Bien-aimé, si lui, Dieu, utilise les catastrophes pour parler, pourquoi toi tu as peur que Dieu t'utilise pour choquer? Lui, Dieu, ne se retient pas lorsqu'il faut qu'il réveille les gens par des catastrophes. Ne te retiens pas, bien-aimé. Vis l'évangile à 100%. Le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont violents. Ce n'est pas une violence décidée, c'est une violence naturellement communiquée par l'évangile. Parce que l'évangile te donne le feu. Comprends, bien-aimé, pourquoi cet homme-là, qui a une femme et des enfants, est parti dire aux autorités iraniennes qu'il était contre qu'on enseigne le Coran à ses enfants. Comprends, qu'est-ce qu'il a animé cet homme-là? Qu'est-ce qui fait qu'un pasteur en Chine se laisse enfermer en prison, laissant 4 enfants entre les mains d'une maman qui ne travaille pas? Essaye de réfléchir. Qu'est-ce qui a conduit Jésus-Christ à la croix? Pourquoi une telle violence? Réfléchis. Comment Dieu lui-même peut supporter que son fils souffre comme ça? Vous êtes prêts à aller voir les films de Mel Gibson dans les cinémas, mais vous ne réfléchissez pas pourquoi le Fils de Dieu a souffert ainsi. Ce n'est pas la violence, ça. C'est la violence. Alors, puisque nous devons sauver les âmes, nous sommes prêts à accepter la violence qui va se jeter sur nous. Parce que la vie d'une âme n'a pas de prix. Bien-aimé, on ne blague pas avec la vie des gens. Ne jouons pas aux chrétiens ou aux pasteurs. Nous devons prêcher la vérité. Nous ne devons pas chercher à faire accepter, à grandir les églises, à augmenter le nombre de membres. Nous devons prêcher la vérité. Et si les gens ne veulent pas, le jour du jugement, Dieu leur dira, vous avez entendu la vérité. Nous ne devons pas, bien-aimé, laisser le Saint-Esprit économiser en nous. Laissons le Saint-Esprit s'exprimer. Acceptons la violence. 2 Timothée 3:12 le dit, ceux qui veulent servir Jésus-Christ pieusement seront persécutés. Et cette violence viendra de toi-même aussi. Ta chair va vouloir combattre l'évangile. Ne la laisse pas combattre l'évangile. Laisse ta chair souffrir à cause de l'évangile. Parce que nous avons été crucifiés avec Christ à la croix. Nous avons connu la violence avec lui. C'est une réalité, bien-aimé. Choisissons qu'est-ce que nous voulons. Suivre Jésus-Christ et être persécuté, mais pour la gloire. Ou alors jouer au tiède et mourir dans notre foi. Qu'est-ce que nous choisissons? Ces hommes-là qui se permettent d'affronter la mort pour l'évangile, vous savez pourquoi ils le font? Parce que s'ils ne le font pas, ils se sentent mourir. Alors pour éviter de mourir, ils préfèrent la mort de la chair et que leur esprit vive. Paul a dit dans 1 Corinthiens 9, 16, il a dit, malheur à moi si j'en annonce l'évangile. Malheur à moi. il était animé de la soif de voir les gens aller au ciel. Et donc, il ne pouvait pas s'économiser. Jérémie a voulu aussi s'arrêter parce qu'il était très jeune et qu'à chaque fois qu'il parlait, on le tapait. À chaque fois qu'il parlait de la part du Seigneur, on le critiquait. À un moment, il a dit, « Seigneur, je regrette pourquoi je suis venu dans ce monde. Je n'ai aucun résultat. Tout ce que j'ai dit suscite critique. Tout ce que j'ai dit amène persécution. Je veux m'arrêter. » Mais lui-même, il a dit, « Seigneur, c'est trop tard. Tu m'as eu. J'ai l'appel dans mon cœur. J'ai le feu dans mon cœur. » Il a dit, « Quand je veux m'arrêter, je sens un feu en moi qui me dit, « Non, tu continues. Combattant jusqu'à la mort. » Bien-aimé, ou tu es un chrétien combattant, ou tu es tiède. Et Apocalypse 3 dit que Dieu vomira les tièdes. Dieu préfère encore que tu sois froid pour qu'il te convainque de devenir bouillant. Mais jouer au tiède, ça ne colle pas avec l'évangile. Venir dans les églises pour faire présence, comme pour la religion, dire « j'ai été le dimanche au culte », ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Dieu attend de nous que nous soyons des combattants, des gens qui livrent notre vie pour que les autres soient sauvés. Une âme n'a pas de prix, bien-aimé. Jésus aurait pu mourir pour une seule âme. Il est écrit, il y a de la joie au ciel lorsqu'une seule personne se donne à Dieu. Si une seule personne se donne tant de joie à Dieu, alors prêche la vérité. Parce que seule la vérité peut sauver les gens. La fausse parole ne fera que donner la religion aux gens. Vis ta vie chrétienne pleinement. Ne cherche pas à plaire aux hommes. Comme Paul a dit dans Galates 1:10, sinon tu deviens serviteur des hommes. Sois serviteur de l'Éternel. Comme les Jérémie, les Ézéchiel, les Ésaïe. Ésaïe, Dieu lui dit, je t'envoie une mission. Tout ce que tu diras, les gens n'accepteront pas. Mais vas-y quand même. Ésaïe dit, Jacques, d'accord, je m'en vais au nom de l'Éternel. Parce que la vérité doit être dite. Seule la vérité peut sauver. Dieu nous a suscités pour cela. Il ne nous a pas suscités pour manger, ni pour boire. Ce sont des choses normales que tout le monde fait. Il nous a suscités pour être livrés en sacrifice vivant, sain et agréable. Pour sa gloire et que beaucoup d'humains soient sauvés. Nous sommes l'honneur de Dieu. Nous sommes le parfum de bonne odeur de Dieu. Cela passe par une vie pleine en Jésus. Une vie de vérité. Nous sommes son parfum. Et si le sel perd sa saveur, avec quoi rendra-t-on ce sel? Comment va le payer, ce sel-là? Prions que le Seigneur nous sorte du tourisme chrétien pour entrer dans le combat. Ce n'est pas un combat que nous allons provoquer. C'est un combat qui a été provoqué par Christ à sa venue. Car le Fils de Dieu est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Car Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et le Seigneur a dit, là où je suis, c'est là que sera mon serviteur. Et le Seigneur Jésus se trouve à la croix. À chaque fois qu'une âme est sauvée, Jésus-Christ a été pour cette âme à la croix. Et il est ressuscité, nous permettant ainsi de vivre la même croix que lui à chaque fois. Humilions-nous, laissons les gens nous critiquer. Acceptons les chocs. Acceptons la violence que nous allons susciter. Parce que l'évangile, c'est cela. Vaut mieux la violence qui sauve plutôt que l'indifférence, le compromis qui fait périr, qui fait mourir. Que Dieu soit béni. Prions le Seigneur. Éternel, nous te confions ta parole. Ta parole est la vérité, Seigneur. Nous voulons que ta parole s'exprime en nous sans compromis, Seigneur. Nous voulons vivre notre vie chrétienne sans compromis. Nous ne voulons pas laisser le diable prendre notre territoire. Alors que tu nous as donné des bouches, tu nous as donné des corps, c'est pour nous exprimer pour ta gloire. C'est pour sauver les âmes. Nous refusons par notre comportement d'encourager le mal. Nous refusons sous prétexte d'une quelconque paix avec les autres de ne pas choquer alors que l'esprit en nous veut choquer parfois. Au nom de Jésus, Papa, nous prions que le feu que tu avais mis en Jérémie, le feu que tu as mis en Paul, le feu qu'il y avait en toi, Jésus, toi-même, parce que Jean-Baptiste nous a promis que celui qui vient après lui baptisera de feu et du Saint-Esprit. Que nous soyons baptisés de feu et du Saint-Esprit et que plus jamais la chair ne nous arrête, Seigneur. Nous refusons cela. Oh Seigneur.